Radio Kapi. Oh,
Kapi. Blaise Sindali Kambala pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, RDC Ouganda, alliance sanitaire contre Ebola. Les deux pays lancent une coopération transfrontalière avec surveillance renforcée et laboratoire mobile au poste frontalier d'Aru et Kasedi. Kinshasa, le gouverneur recadre la force du progrès. Daniel Bumba Lubaki dénonce les abus, taxes illégales et violences imputées à certains militants de cette structure affiliée à la jeunesse de l'UDPS. Coupe du Monde 2026, la RDC battue par la Colombie, un but encaissé à la 76e minute, condamne les Léopards à espérer un miracle pour se qualifier au deuxième tour. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont débattu sur ces sujets. Encore une fois, bonjour à tous. Dans la lutte contre Ebola, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont lancé mardi 23 juin une coopération sanitaire transfrontalière. C'était à l'issue d'une rencontre entre les autorités des deux pays à Aru Centre, en Ituri, à environ 300 km au nord de Bunia. Cette mutualisation consiste à renforcer la surveillance et déployer des laboratoires mobiles aux postes frontaliers d'Aru et de Kasseni. Le reportage est signé Martial Kizabiamongo.
Dans les mémorandums signés par les autorités congolaises et ougandaises, les deux parties s'engagent à partager régulièrement les données épidémiologiques entre les deux pays, à renforcer la surveillance sanitaire commune pour mieux détecter les cas suspects et confirmés de la maladie à virus Ebola. Les autorités des deux pays ont également décidé de déployer des laboratoires mobiles à Aru et Kasseni. L'objectif est de prévenir la propagation de l'épidémie entre les deux pays. Pour l'Institut National de Santé public qui a pris part à cette rencontre. Cette coopération sanitaire renforce les dispositifs de riposte entre ces deux pays voisins liés par d'importants échanges commerciaux. Le directeur général de l'INSP, Didoné Mwamba.
Aujourd'hui, nous avons lancé vraiment cette collaboration transfrontalière et nous venons de visiter ce laboratoire où vont se faire des dépistages de la maladie à virus Ebola.
Les autorités congolaises ont rassuré leurs homologues ougandaises que la situation de la riposte contre Ebola demeure sous contrôle. Il y a plus d'un mois, l'Ouganda avait décidé de restreindre l'entrée des voyageurs en provenance de la RDC afin de limiter le risque de propagation de la maladie sur son territoire. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons à Ituri où le service provincial de la protection civile a poursuivi hier mercredi la sensibilisation des structures sanitaires et des membres des communautés locales au respect des enterrements dignes et sécurisés des personnes décédées de la maladie à virus Ebola. Selon son responsable, l'objectif est de briser la chaîne de transmission de cette maladie hémorragique. Cela passe notamment par une meilleure collaboration entre les équipes de riposte, souvent victimes d'actes de vandalisme, et les communautés. Martial Kizabiamongo.
Depuis le début de l'épidémie des maladies à virus Ebola, les cas suspects et confirmés sont régulièrement enregistrés dans les structures sanitaires aussi qu'au sein des communautés. Cependant, les protocoles d'intégrement dignes et sécurisés n'est pas toujours respecté en cas de décès liés à Ebola, constate le service provincial de la protection civile qui mène des campagnes de sensibilisation depuis lundi dernier. L'institution appelle la population à prendre conscience de la gravité de cette maladie et à n'est pas s'en prendre aux équipes de riposte formées pour procéder aux inhumations sécurisées des victimes d'Ebola. Pour tout cas suspect ou décès lié à Ebola, la protection civile appelle la population à ne pas manipuler les corps et à contacter gratuitement en urgence les numéros verts 082 14 19 595 afin de permettre l'intervention rapide des équipes de riposte. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a recadré les membres de la structure Force du Progrès affiliée à la jeunesse de l'UDPS. L'hôtel de ville accuse ses militants d'abus, notamment l'imposition de taxes illégales, la substitution à l'autorité de l'État et des violences contre les citoyens. Cette rencontre intervient après le dépôt d'une plainte par l'UDPS contre certains dérapages et faits infractionnels attribués à des membres de la Force du Progrès. On écoute le gouverneur Daniel Bumba Lubaki dans cet extrait proposé par Jude Mystère Milanda.
Je suis gouverneur, mais je suis aussi l'un d'entre vous, comme vous le savez tous. Est-ce qu'on peut encore être fier de ce mouvement? Vous voulez prendre la place de l'État? Ce qui est inadmissible, ce qui est inacceptable. Vous n'êtes pas là pour se substituer en l'État, mais derrière ce mouvement, il y a maintenant du n'importe quoi. L'UDP, c'est un parti qui incarne des valeurs. Jusqu'à voir des images virales. Une personne sortie de je ne sais où, qui parle au nom de ce mouvement, défiant l'autorité municipale, c'est la dérive maintenant. Pourquoi vous amenez la population à rejeter ces valeurs qu'incarnent nos partis? Parce que vous vous comportez mal. C'est inacceptable le comportement que vous affichez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Je ne sais même pas si dans d'autres provinces aussi ça se passe comme ça. Et en aucun cas, en aucune circonstance, vous allez vous transformer en l'État. Parce que l'État va prendre ses responsabilités.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin, le collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, COJESKI RDC, en partenariat avec le sous-groupe Justice Transitionnelle de la coalition des ONG des droits de l'homme du BCNIDH, a organisé ce 24 juin à Kinshasa une journée publique d'échange. Cette initiative visait à promouvoir la connaissance pour lutter contre les stigmatisations, les discriminations et les mythes entourant les réfugiés. Les discussions ont mis en lumière les défis auxquels ces derniers sont confrontés tout en encourageant l'implication de la RDC dans leur protection et leur intégration. La rencontre a réuni des communautés de réfugiés originaires de plusieurs pays africains vivant à RDC, des acteurs de la société civile, des associations locales engagées dans la défense des droits humains, des représentants diplomatiques ainsi que des organisations internationales. Sephora Mpaka Chipuni, reportage.
C'est autour d'une table que les différentes parties prenantes ont pris parole pour sensibiliser sur la situation et les réalités quotidiennes des réfugiés en RDC. Elles ont dénoncé les nombreux défis auxquels ces derniers font face. L'obstacle institutionnel et politique, difficultés liées à la reconnaissance de droits et à l'identification. L'objectif est d'encourager la RDC à devenir un pays modèle en matière de protection et d'intégration sociale des réfugiés, originaires de l'Angola, République du Congo, République centrafricaine, Rwanda et Burundi. L'animateur national du COJESKI RDC, Pekos Kuluo Shimushikami, explique.
Les défis sont liés surtout au manque de la protection des réfugiés, le non-respect de leurs droits, le non-respect des conventions de la RDC a déjà signé. Ceci pousse la RDC à se positionner plus comme un pays qui est en train de créer des couloirs pour pousser les réfugiés à quitter le pays.
Par ailleurs, ces réfugiés n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations et reformuler des recommandations.
Plaider pour nous auprès de l'accès pour une meilleure protection et sécurité. La mise en œuvre de toutes les mesures destinées à améliorer le sort des réfugiés.
Au terme de cette journée d'échange, un message fort s'est dégagé. L'intégration réussie dans les normes et lois des réfugiés peut contribuer à bâtir une société plus solidaire et inclusive.
Restons dans la capitale. Plus de 50 journalistes, rédacteurs en chef, responsables des médias et professionnels de la communication prennent part ici à Kinshasa au Media Lab sur le journalisme inclusif organisé par la MONUSCO à travers la section genre en partenariat avec le département de l'information publique. Cette rencontre de deux jours vise à promouvoir une couverture médiatique plus sensible aux questions des genres, des paix et de cohésion sociale. Les participants échangent sur les moyens de renforcer la présence des femmes et des jeunes dans le traitement de l'actualité politique, sécuritaire et sociale, tout en réfléchissant au rôle des médias dans la consolidation de la paix et de la stabilisation des communautés en RDC. Nancy Tambo pour le reportage.
Comment les médias peuvent-ils contribuer davantage à la paix, à la cohésion sociale et à la stabilisation en République démocratique du Congo? C'est la question au centre de ces Media Lab qui réunit depuis ce mercredi à Kinshasa plus de 50 professionnels de médias. Pour la section genre de la MONUSCO, cet atelier va permettre aux médias de devenir davantage des acteurs du changement.
L'information en RDC est confrontée à une crise de déficit liés à la représentativité et à l'inclusivité. Ce que nous attendons des journalistes qui puissent s'imprégner d'abord de cette formation.
Du côté de l'information publique, l'accent est mis sur les objectifs du Media Lab et l'importance d'un journalisme inclusif.
On a préféré organiser ces Media Lab pour renforcement des capacités afin de les exposer ces constats, carrément de les inviter désormais à pouvoir aussi prendre en considération cet aspect de la femme qui n'est pas que victime, de la femme aussi qui participe à la résolution des conflits en RDC.
Cette première journée a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur l'agenda femmes, paix et sécurité, ainsi que sur les approches du journalisme inclusif. Les travaux se poursuivent ce jeudi autour de l'éthique de médias, de la prévention des discours de haine et de la production de contenus favorisant la paix et la cohésion sociale.
La journée nationale du poisson était au centre d'une conférence organisée par l'Union des associations des aquaculteurs du Maniema ce mercredi 24 juin sous le thème « Poisson denrée stratégique pour le développement économique de la RDC ». Une occasion de sensibiliser les uns et les autres sur les bienfaits du poisson dans l'alimentation quotidienne et comment faire de la pisciculture un moteur de la croissance économique. Florence Kizalunga.
Conscient du rôle des pisciculteurs dans la région, l'orateur du jour leur a demandé d'échanger leur façon de considérer leur travail. Massoudi Omari.
La pisciculture doit cesser d'être perçue comme une activité de subsistance où les gens élèvent des poissons juste pour compléter leur menu. Il faut concevoir la pisciculture comme une activité appartenant à une véritable filière sur le plan économique et une filière qui génère quand même une chaîne de valeur.
Une conférence qui a révolté Madame Azama Massoudi qui a pris l'engagement de désormais équilibrer les repas à la maison pour le bien de ses enfants.
Je suis vraiment contente. Je vais commencer à montrer aux enfants l'importance d'abord du poisson. S'il s'agit de manger, je vais équilibrer le repas de mes enfants en mettant aussi le poisson.
Le programme Padrir qui appuie aussi les pisciculteurs salue le travail qui a été fait. Mathieu Kamuleta, coordonnateur provincial.
Oui, jusque-là, le résultat est bon. La vision de Padrir en appuyant IAM, c'est d'appuyer des stations d'alévinage. Mais au-delà de ça, nous sommes en train d'envisager pour la construction de l'écloserie.
Le vice-gouverneur de la province, qui a également visité les réalisations de ces pisciculteurs, les encourage à aller de l'avant. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À l'occasion toujours de la journée nationale du poisson célébrée ce 24 juin à Beni au Nord Kivu, deux professionnels de santé appellent la population à adopter une consommation équilibrée de poissons. Selon eux, le poisson est une source importante de protéines d'origine animale, essentielle au renforcement du système immunitaire. Ils soulignent également ses nombreux bienfaits dans la croissance et le développement des enfants. Le docteur Baba Mutuza, médecin directeur de la clinique Dieu est grand à Beni, explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous devons avoir une alimentation riche ou équilibrée en protéines et équilibrée en graisses, autrement dit les lipides. Le poisson, il combine deux de ces éléments-là. Le premier, c'est que le poisson est riche en protéines d'origine animale. C'est l'ensemble des protéines qui sont la base de la fabrication de nos systèmes de défense, mais aussi des hormones d'une manière générale. Mais aussi, le poisson va intervenir et est très riche en vitamine D qui intervient pour les reins, pour les os et même pour la protection de la peau aussi. Et enfin, le poisson est riche en acides gras qu'on appelle les oméga-3. Les oméga-3 sont des antioxydants qu'on extrait des poissons et qui contribuent à un bon fonctionnement du système nerveux, c'est-à-dire du cerveau, et un bon fonctionnement du cœur, dans sa contractilité, dans son rythme et dans sa gestion de pompe de sang. Aujourd'hui, il est clairement établi que la viande rouge, surtout celle qui est modifiée génétiquement, peut facilement entraîner des cancers. Les poissons, généralement, c'est la viande blanche, celle qui n'est pas modifiée génétiquement. Cela va favoriser une croissance correcte du système nerveux des enfants et des nourrissons. Mais aussi, le cœur des enfants, c'est un cœur qui va travailler deux fois plus, parce que les muscles périphériques ont besoin d'une grande quantité pour la croissance.
Restons dans la région, les tracasseries dont sont victimes les cultivateurs dans les zones agricoles de Beni, notamment autour du parc national de Virunga et dans les 11 cellules du quartier Sayo, étaient au centre d'une rencontre mardi entre la coopérative Mukulima na Akiyake et le procureur près les tribunaux de grande instance de Beni. L'objectif était d'examiner ces préoccupations qui affectent sérieusement les activités agricoles dans la région. À l'issue de cette rencontre, le procureur a promis son accompagnement en vue de trouver des solutions appropriées aux différentes doléances. Marc Marofimbo nous en dit plus.
À l'origine de cette démarche, plusieurs cas de conflits fonciers enregistrés dans les zones agricoles de Sayo et de Moutoubienne. Selon les cultivateurs, certains chefs coutumiers procèdent à la vente d'un même terrain à plusieurs acquéreurs, une situation qui alimente des tensions et contraint plusieurs exploitants à abandonner leurs champs par crainte pour leur sécurité. Des cas d'arrestations visant des cultivateurs, pourtant victimes de ces pratiques, ont été également signalés. Une autre préoccupation majeure concerne les champs situés en périphérie du parc national de Virunga, notamment dans les zones agricoles de Mayangose, Vemba et Kinyamuse et dans les villages de Bapakome et Bakundu. Dans ces entités riveraines du parc, des conflits de délimitation opposent régulièrement les écogardes aux cultivateurs, malgré les efforts fournis par les autorités et les différentes commissions mises en place pour clarifier les limites du parc. À l'issue des échanges, les procureurs près le tribunal de grande instance de Beni a promis son accompagnement aux cultivateurs afin de trouver des solutions appropriées à ces problèmes en vue de favoriser une cohabitation pacifique. Il a également exhorté les cultivateurs à faire preuve de vigilance et à éviter de s'engager dans des conflits fonciers déjà à l'origine des nombreuses pertes humaines dans la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après un procès fleuve entamé fin 2024, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Ibrahima Sherif Ba, à l'État guinéen, a été condamné à une peine de prison ferme et au remboursement de plusieurs millions de dollars frauduleusement sortis des guichets de la Banque centrale sans laisser des traces par la Chambre des appels de la CRIEF.
L'invité.
En Coupe du monde de football, l'équipe nationale de la RDC en compétition depuis deux semaines en Amérique a été battue mercredi par la Colombie sur le score d'un but à zéro. Le but a été marqué à la 76e minute de jeu. Cette victoire qualifie la Colombie pour le deuxième tour, tandis que la RDC est désormais condamnée à gagner son dernier match de poule et à espérer un miracle pour se qualifier. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier ont débattu sur ces sujets. On les écoute au micro de Dona Madimbambaya.
Eddie Kankou, analyste sportif, quels sont les joueurs que, selon vous, l'entraîneur des Sabres doit choisir pour que la RDC gagne ce match et s'ouvre donc la possibilité d'une qualification?
Il doit utiliser le système qu'il a utilisé au Maroc face à l'équipe du Bénin où vous avez un Théo sur le terrain, vous avez un Moukaou sur le terrain et qu'il ne joue pas avec un système de 5 milieux de terrain. Il nous joue un système de 4-4-2 et je pense que ça sera très prolifique. Mais je pense que Bakambu peut aussi rester sur le banc parce que l'entrée de Banza nous a prouvé aussi la conservation, parce qu'en football moderne, le premier défenseur c'est l'avant-centre. L'avant-centre doit être à mesure de dévier le ballon, de conserver, de jouer en ligne D pour permettre au milieu terrain défense de souffler. Parce que si vous avez Bakambu qui n'attaque la profondeur alors que le match est très physique, il n'y a pas quelqu'un pour le faire de profondeur, c'est un joueur de au moins. Et que l'entraîneur évite la peur, que l'entraîneur lâche les siens et on a la possibilité de bien jouer et de titiller et de se qualifier au prochain tour.
Merci à vous, Eddy Kankou, pour cet avis. Herbert Tshibanda, sénateur de la République démocratique du Congo, président du club de football olympique de Mbujimayi, également chercheur en droit. Quel est votre 11 idéal en fonction de l'effectif dont la RDC dispose en ce moment pour gagner le troisième match, le match prochain contre l'Ouzbékistan et pourquoi?
Je propose qu'il fasse le 4-3-3, ça veut dire en défense. Il va se décider de faire tomber entre Kapwadi et comment il s'appelle encore Toisebe, entre un des deux, mais moi je pense que Kapwadi peut d'abord être sur les bancs, il titularise Toisebe, il met le joueur de l'ancien de Manchester à droite, le Nova
venir,
et à gauche il met notre titulaire national qu'on appelle, voilà, Juan Bissaka justement. Et dans l'entrée-jeu, la médiane là, qu'il mette trois, qu'il mette Moussoussami comme milieu récupérateur, milieu défensif, et qu'il mette, qu'il se fasse accompagner par Moukaou ainsi que notre jeune joueur Sadik. Et à gauche, Wissa, Banza en pointe, et à droite, qu'il mette Théo Bongonda. Pourquoi j'insiste pour Théo Bongonda? Théo Bongonda est capable, il est utile offensivement et défensivement. Il défend généralement bien. Et quand il porte le ballon, il a une force de pénétration. Il peut dynamiter la défense de l'équipe adverse. Donc je crois que c'est cela, qu'il sorte un peu de sa torpeur, qu'il nous aligne cette équipe-là, peut-être avec quelques ajustements, ça c'est ma proposition, et qui reste peut-être perfectible. Mais je crois que ce faisant, on peut continuer à avoir le destin entre nos mains.
Merci Herbert Tchibanda. Sonny Médard Kazadi, président et manager du club de football, école de football de Kananga et FOCAM, en sigle. Coach, en termes de joueurs, quel serait votre 11 de victoire pour le dernier match de la RDC et pour quelles raisons votre choix?
Lorsqu'on va attaquer, on a 3 attaquants, 2 ailiers percutants, l'un à gauche, l'autre à droite, et un seul avant-centre en pointe. On a besoin d'avoir un avant-centre qui pèse sur la défense adverse. C'est-à-dire, il oblige les défenseurs à ne pas monter. Si on a oui ça, il pèse sur la défense adverse. Eddie Kanko a répété plusieurs fois. Bakambu n'a qu'une seule qualité. C'est un joueur de profondeur. Or, le système qu'il met en place ne lui permet pas de réussir ses profondeurs. Et lorsqu'il a des ballons en profondeur, ces derniers temps, il ne les a pas réussis. C'est ainsi que moi, je propose qu'on ait à côté, du côté gauche, le petit Tipenga, ou Meshak Elia, et du côté droit, Théo Bongonda, et qu'on place Wissa en pointe. Si Bongonda n'arrive pas à répondre ou est fatigué, à ce moment-là, il peut changer pour remettre Banda. Et à ce moment-là, Wissa va passer sur le côté gauche et le petit Tchipenga peut passer sur le côté droit. Où c'est Meshak Elia.
Et c'est par cette analyse de Sonny Médard Kazadi que nous terminons notre journal de ce matin, coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilan Dankouma et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.